Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vendredi prochain, le 22 avril, le monde entier va célébrer le 100e anniversaire de la naissance d'un des plus grands interprètes de tous les temps, le violoniste Yehudi Menuhin. Franck Ferrand fête cet anniversaire avec quelques jours d'avance. Bonjour Franck.
Bonjour Omblin, bonjour à tous. Lord Yehudi Menuhin, puisqu'il avait été anobli en 1993, nous a quittés il y a 17 ans après une vie d'humaniste consacrée aux autres. Et vous allez voir jusqu'à quel point. Notamment, il avait fondé à Paris en 1980 la fondation Yehudi Menuhin, dont certains lauréats sont devenus célèbres, entre autres Nigel Kennedy, Jean-Marc Luzada ou Laurent Corsia. L'un des musicologues qui l'ont le mieux connu, Alain Duhaut, nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi pour évoquer ce très grand violoniste, enfant prodige dès le milieu des années 20.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Francis sur les origines du journal officiel.
Un journal officiel qui, vous savez, depuis 4 mois vient de connaître un changement historique. Nous y reviendrons. Pour le moment, j'aimerais évoquer un aspect subtil, très intéressant de la vie du maître Menuhin, celui de ses relations avec Wilhelm Furtwängler.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Berlin, septembre 1947. Dans cette ville qui est complètement en ruine et qui peine à se relever de la guerre, deux génies de la musique se rencontrent pour la première fois sur scène, Yehudi Menuhin, violoniste juif américain de 31 ans, et Wilhelm Furtwängler, chef d'orchestre allemand, qui, évidemment, est son aîné de beaucoup, de 30 ans. C'est un concert exceptionnel. Ce soir-là, le concerto pour violon de Beethoven est sublimé par deux artistes à leur sommet, deux artistes qui croient en la puissance conciliatrice de l'art, en sa puissance réconfortante, probablement, dans cette période de très grande difficulté. La poignée de main que Menuhin et Furtwängler vont échanger à la fin du concert devant une assistance en suspens, cette poignée de main est un événement artistique bien sûr, mais pas seulement. Elle va devenir un symbole et s'inscrire au cœur d'une violente polémique. Par ce geste, le violoniste renouvelle face au monde son soutien à Furtwängler, que certains considèrent comme compromis par son passé très récent, pendant la période nazie. Pour comprendre la portée de cette poignée de main et de cette rencontre de 47, il faut s'intéresser à la façon dont les deux artistes ont traversé ce conflit mondial. Quand la guerre éclate en Europe, Yehudi Menuhin a 23 ans, c'est un violoniste célèbre dans le monde entier, il fait partie de ces petits génies comme il n'en paraît qu'une poignée par siècle, et on peut dire que dès l'enfance, il a témoigné d'un talent quasi surnaturel et qui lui a donné accès aux plus grandes scènes du monde. Entre 1939 et 1941, il regrette que son pays, les États-Unis, reste à l'écart du conflit, et quand enfin l'Amérique, attaquée à Pearl Harbor, décide de s'engager, alors là, il se dit qu'il va participer à la guerre. Il est père de deux enfants, néanmoins, ce qui fait qu'il n'est pas appelé pour servir. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de mettre son talent, son exceptionnel talent, au service des Alliés. Armé de son seul violon, Menuhin est envoyé donner des récitals, par rafale, par dizaines, par centaines, parfois 3 récitals par jour. Il est partout à la fois dans des conditions parfois difficiles. On le voit par exemple aux îles Aléoutiennes, au sud du détroit de Bering, on le voit à Hawaï où il donne un concert devant les soldats en partance pour le feu, ou encore dans les îles Britanniques, qui est considéré par les Américains, et à juste titre du reste, comme une sorte de rempart face à l'expansion du Reich. On peut imaginer l'émotion de ces auditoires meurtris, de ces auditoires inquiets, au son de la vibration des cordes de ce violon-là. Et quand en fin de récital, les notes de l'Ave Maria de Schubert emplissent la salle, le recueillement atteint son paroxysme. Pour Menouin, cette expérience est une expérience déterminante. Jamais sans doute il ne revivra un tel moment. Il a donné le plus qu'il pouvait donner dans ces tournées épuisantes qui sont en même temps une leçon d'interprétation pour lui. Il raconte ça dans son autobiographie. « Avant de jouer ainsi pour les soldats, écrit-il, la musique dont le but est pourtant de communiquer avait tissé autour de moi cette sorte de cocon que j'apportais sur scène avec moi et remportais intact. Je n'avais jamais joué dans des cafés, dans des cabarets, et jamais je n'avais été obligé de séduire mes auditeurs pour me faire écouter. Or, je devais maintenant complaire à des hommes qui n'avaient jamais assisté à un seul concert, qui en ignoraient les conventions. Ce fut une expérience utile, porteuse d'humilité et finalement de joie. Alors que les alliés prennent pied en Europe continentale, Yehudi Menouin se rend en Belgique en septembre 44 et puis très vite à Paris où il va donner un concert. On rouvrit l'opéra, raconte-t-il, fermé depuis des mois, et on lui donna un coup de balai rapide. Sa réouverture, la première occasion d'y jouer la Marseillaise depuis le début de l'année 1940, conférait à l'événement une portée nationale et une signification quasi mystique. Et quelques mois plus tard, on va voir le même interprète, le même virtuose, confronté à l'horreur des camps de concentration. Il va donner un concert à Belzen, un concert qui le bouleverse évidemment de façon définitive. D'une manière générale, ce moment de la fin de la guerre et de la libération est difficile pour Menouin. Il est éreinté par le rythme des tournées, il est marqué par tout ce qu'il a vu. Il traverse une période charnière de son existence, puisque c'est l'époque où il divorce et où il va rencontrer celle qui va devenir bientôt sa seconde épouse. À la même période, le grand chef allemand, Wilhelm Furtwängler, dans un contexte alors complètement différent, connaît lui aussi un bouleversement. Il est une célébrité sans exemple dans le monde de la musique, bien entendu, et il a voulu croire, sans doute avec une certaine naïveté, il a voulu croire à la possibilité d'un art séparé du politique. Il a choisi, lui, de continuer à travailler en Allemagne, même au fort de la guerre, et au fil des années, il a plusieurs fois, certes, montré son opposition au nazisme, mais il ne s'est jamais produit en pays occupé, il faut le dire, mais il est resté en Allemagne. Quand il apprend à la fin de 44 que le pouvoir le croit à tort ou à raison lié aux conjurateurs qui ont tenté un complot contre Hitler, vous savez, c'est le fameux complot du 20 juillet, il comprend le danger qui pèse sur lui. En février 45, il quitte l'Allemagne pour la Suisse. Pour beaucoup, c'est un départ bien tardif. Trop tardif au moment où la guerre s'achève, et l'on peut dire que pour le très grand chef d'orchestre, les ennuis ne font que commencer. Eh bien, c'est dans ce contexte, bien sûr, que Yehudi Menouin et Wilhelm Furtwängler, qui jusque-là ne se connaissaient évidemment que de réputation, c'est dans ce contexte que l'impossible va avoir lieu, qu'ils vont se rencontrer.
Pour violon de Beethoven interprété par Yehudi Menuhin et par l'Orchestre Philharmonie de Berlin dirigé par Wilhelm Furtwängler. Vous restez avec nous sur Europe 1, on vous retrouve dans un instant et Franck Ferrand, vous continuerez votre récit sur la relation naissante entre le violoniste Yehudi Menuhin et le chef d'orchestre allemand Wilhelm Furtwängler.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le grand violoniste Yehudi Menuhin est au cœur de l'histoire et vous mettez en lumière, Franck Ferrand, son soutien au chef d'orchestre allemand Wilhelm Furtwängler, alors controversé à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Vous imaginez que si Yehudi Menuhin avait continué de se porter comme un charme, parce que c'était le cas, il aurait eu 100 ans, là, à la fin de cette semaine, il aurait fait un très beau centenaire, en fait. Et ça, c'est toujours étonnant et amusant de voir qu'il avait déjà joué un rôle très important, vous l'aurez compris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à la fin de ce conflit, où Furtwängler, lui, a de gros soucis. Aussi, évidemment, il est resté en Allemagne pendant toute la période nazie. Il n'est pas le bienvenu pour tout le monde en Suisse dans ces derniers mois de la guerre. On entend déjà des protestations à l'approche d'un certain nombre de concerts qu'il doit donner, au point que son passage à Zurich doit être annulé. Pour certains, le chef d'orchestre allemand apparaît comme un artiste compromis, pour ne pas dire même comme une forme de symbole du nazisme. Il est donc inacceptable aux yeux de certains de le laisser se produire sur les scènes suisses. Vous voyez déjà les polémiques qui vont fleurir. Alors Furtwängler va bientôt passer devant les commissions de dénazification à Vienne puis à Berlin. Ça ne l'empêche pas de reprendre ses activités. Il est blanchi, si je puis dire. On est dans cette période où, sous le regard des alliés, on cherche à évaluer le rôle des personnes associées de près ou de loin au pouvoir nazi. Et dans ces procédures, il y a toutes sortes d'enjeux. Des enjeux juridiques, politiques énormes, artistiques, c'est incontestable. Et puis bien sûr, et peut-être avant tout, diplomatique, ce qu'on a parfois eu tendance à négliger. Le tout étant lié, bien entendu, au profond traumatisme provoqué par les atrocités de la guerre partout. Ce climat qui est en train de ressortir et par un désir intense de justice et de renouvellement, bien sûr. En mars 48, il y a beaucoup de règlements de compte dans tout ça, bien sûr. En mars 46, le chef d'orchestre donc passe sans encombre devant la commission autrichienne et puis à Berlin quelques mois plus tard. Là, le procès a l'air un peu plus complexe. En résumé, on lui reproche sa présence lors de deux cérémonies nazies et on lui reproche un titre honorifique dont il n'est pas parvenu à se défaire. Alors, il y a un certain nombre de pièces qui plaident en faveur du chef d'orchestre. Il n'a jamais été membre du parti nazi, ça c'est un fait, contrairement à d'autres. Enfin, on va passer pudiquement là aujourd'hui sur ces aspects. Il lui est arrivé de s'opposer directement à Göring. Il a pris de grands risques pour aider plusieurs juifs menacés. Donc tout ça plaide en sa faveur, bien entendu. Et finalement, on va aboutir, comme le raconte Audrey Ronsigli, au classement de Furtwängler en catégorie 4, suiviste du régime, ce qui lui permet de reprendre ses activités dans toutes les zones occupées. Suiviste, ça veut dire qu'il n'a pas activement participé au processus. C'est quand même difficile, hein. Alors, on rouvre, si je puis dire, le chemin de son retour. Il va se produire à Berlin en mai 1947, alors que les États-Unis se passionnent pour ce qui se passe dans cette Allemagne de l'immédiate après-guerre. Menuhin, de son côté, est déjà intervenu dans la polémique et il a fait ça avant même l'aboutissement des procès. En effet, à ses yeux et au vu des informations et des témoignages qu'il a pu recueillir, les attaques dont Furtwängler fait l'objet sont tout simplement des attaques injustes. C'est une position très importante, puisque c'est Menuhin qui la prend, bien entendu. Certains vont l'interpréter d'ailleurs comme une affaire de carrière et disent « Ah, mais Menuhin a besoin que Furtwängler immigre aux États-Unis hein, ». C'est ce qu'on disait à l'époque. Une personnalité qui est citée par Audrey Ronsigli semble réagir à cette idée quand elle écrit à l'époque. Je cite « La mémoire des Américains n'est pas si courte, en particulier celle de ceux qui ont donné leur fils en Allemagne pour détruire les patrons de Furtwängler. Monsieur Menuhin choisit un moment crucial dans l'histoire pour suggérer le retour de l'un des satellites nazis. Le peuple américain dans sa totalité ne tolérera pas la pollution de son air par un musicien qui a servi avec dévotion les leaders nazis. » Voilà ce qu'on pouvait lire à l'époque. Ce sont des mots d'une grande dureté, bien entendu, avec des imputations morales qui ne sont même plus sous-jacentes à ce niveau. Le violoniste continue néanmoins à agir, à s'engager en faveur du chef, quitte à menacer sa propre image. C'est Bruno Mont-Saint-Jean qui le souligne. Menuhin ne se contente pas de déclarations à la presse. Il va sur place. Il contacte les grands de ce monde auxquels il a accès. Il alerte l'opinion, témoigne, prend fait et cause avec véhémence. Dès lors, l'organisation d'un concert en commun entre le violoniste juif américain et le chef d'orchestre allemand semble dans la logique des événements. L'événement en question, il se met en place en septembre 47, pour quelques mois après le retour de Furtwängler sur la scène berlinoise. Là encore, tension considérable, une tension palpable. Une répétition des deux artistes est interrompue carrément par un militaire américain qui évidemment trouve ça intolérable, etc. Il va néanmoins y avoir dès cet automne, 47, il va déjà y avoir 3 concerts, les bénéfices de l'un d'eux étant reversés à la communauté juive américaine. Au-delà de toute autre considération, on peut dire que cette rencontre avec Furtwängler est une révélation artistique pour Menuhin. Il est impressionné par le sens profond, intuitif, sensible que le chef d'orchestre possède de la musique. Et puis, il y a cette poignée de main finale donc entre les deux hommes, cette poignée de main que l'on va voir photographiée à la une de tous les journaux dans le monde entier. Si ce geste d'une portée si symbolique marque le début d'un lien étroit entre Menuhin et Furtwängler, la réhabilitation du chef d'orchestre tellement controversée n'en est pas du tout assurée pour autant.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire et tout au long de l'émission, vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages, vos questions par mail europe1.fr, via la page Facebook de l'émission ou encore via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Le violoniste juif américain Yehudi Menuhin est au cœur de l'histoire. Vous continuerez, Franck Ferrand, dans un instant de nous raconter la relation entre Yehudi Menuhin et le chef d'orchestre allemand Wilhelm Furtwängler.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'un des plus grands violonistes de tous les temps est au cœur de l'histoire et vous relatez, Franck Ferrand, la relation étroite et artistique entre le musicien Yehudi Menuhin et le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler.
Je vais poser la question à Alain Duhaut dans un instant et pour tout vous dire, c'est une question qui me brûle la langue parce que évidemment, on peut imaginer que cette rencontre, au-delà de sa dimension politique essentielle et de sa dimension symbolique, tout simplement. Cette rencontre a eu un impact musical très important sur l'évolution même de la musique de l'époque. Faut pas oublier qu'on est au tout début des grands enregistrements, et c'est le début de l'ère du disque. Et donc, il y avait une sonorité, il y avait un style qui était en train de se mettre en place, et puis ça a modifié sans doute, enfin c'est ce qu'Alain nous dira tout à l'heure, ça a modifié la façon de jouer de Menuhin lui-même. Les enregistrements de cette époque, et les concerts auxquels évidemment nous n'avons pas pu assister, était d'une qualité extraordinaire. Mais le violoniste constate assez vite à quel point ce rapprochement avec Furtwängler et notamment sa venue en Allemagne et les différentes démarches qu'il fait pour aider à la réconciliation, tout cela divise. Ces démarches sont parfois perçues comme une sorte de traîtrise. Elles ravivent des blessures qui sont encore à vif, bien entendu. Par ailleurs, lorsqu'il se rend dans un camp de personnes déplacées où se trouvent de nombreux juifs, l'accueil réservé à Menuhin est très froid. Il entend même des sifflements contre lui. Alors, avec un courage néanmoins étonnant, il va garder sa position, il essaie de l'expliquer, il parvient à calmer peu à peu l'hostilité à son encontre. Un chemin de compréhension mutuelle a l'air de se dessiner et par ailleurs Menuhin est mis au courant d'un certain nombre de tentatives pour boycotter une tournée qu'il s'apprête à faire à travers toute l'Amérique latine. Il raconte « Sans que j'eusse rien fait de particulier pour la prévenir, cette manœuvre échoua au point de provoquer des contre-manifestations. À Buenos Aires, la communauté juive organisa exprès un service religieux et m'y invita pour m'assurer de son plein soutien. » De son côté, on voit Furtwängler à cette époque multiplier les concerts en Europe essentiellement où il est très demandé. Aux États-Unis, sa situation est beaucoup plus délicate. En 48, il est approché par le Chicago Symphony Orchestra qui finit par lui proposer 2 collaborations pour l'automne 49 et le printemps 50. Mais là, il y a encore une fois une fronde qui se met en place. Des musiciens annoncent qu'ils vont refuser de travailler avec l'orchestre. Des artistes célèbres comme Arthur Rubinstein ou Isaac Stern se prononcent clairement contre Furtwängler, c'est une levée de bouclier et on se dit que cette fois peut-être que Yehudi Menuhin va quand même rester un peu sur la réserve. Pas du tout. De nouveau, publiquement, il prend position en faveur de Furtwängler. Il est cité par Audrey Roncigli. Je n'ai jamais rencontré d'attitude plus insolente que celle de ces 3 ou 4 meneurs qui déploient des efforts frénétiques pour exclure de leur terrain de chasse de prédilection un illustre collègue. Leur comportement m'inspire plus que du mépris. je me ferai un grand plaisir de ne plus jouer avec le Chicago Symphony tant que cette affaire ne sera pas résolue, dit celui qui était à l'époque le plus grand violoniste du monde. La pression est donc forte. Furtwängler finit par, de son côté, choisir de renoncer à venir à Chicago. Et dans les années qui suivent, on voit Furtwängler sur les scènes, enfin dans les salles de concert suisses, françaises, italiennes, argentines, égyptiennes, mais pas américaines. Menuhin est déçu, évidemment, par la tournure des événements dans son propre pays. Alors, il continue à rencontrer Furtwängler, à travailler de temps en temps avec lui, ce chef qui l'a tellement ébloui en 1947. Ils associent à nouveau leurs talents, notamment pour enregistrer le concerto pour violon numéro 2 de Bartok, un compositeur que Menuhin a connu pendant la guerre lorsqu'il vivait en exil à New York. Et petit à petit, alors que les années défilent, l'état de santé de Furtwängler, évidemment, se dégrade, et même considérablement. Il continue pourtant à travailler. Il est encouragé par Konrad Adenauer. Il va même finir par accepter le principe d'une tournée aux États-Unis pour le début de l'année 1955. Est-ce qu'on peut dire que cette fois, l'heure de l'apaisement est venue ? Eh bien non, le chef d'orchestre ne pourra pas se rendre de nouveau aux États-Unis. En 1954, son audition ayant d'ailleurs très très diminué, et comme son état général d'ailleurs, il va finir par renoncer. Et au début de l'automne, il dirige l'orchestre philharmonique de Vienne pour un enregistrement de la Valkyrie qui sera son dernier. Peu après, il est hospitalisé et le 30 novembre, le chef d'orchestre rend son dernier soupir à l'âge de 68 ans. Voici ce qu'écrit Yehudi Menuhin à propos de Furtwängler dans son autobiographie. « Ce fut sa grandeur qui suscita la haine. Il y a sans doute une certaine justice là-dedans. Plus on est grand, plus on est responsable. Mais c'est très injustement que Furtwängler a été victime de l'indignation du monde. Il fut en fait la victime du temps. Des musiciens plus compromis que lui ont été depuis lors acceptés et même acclamés sans qu'un mauvais souvenir vienne entacher leur nom. » Tandis que Furtwängler, sans être en rien coupable comme eux, était une cible toute désignée en raison de sa célébrité. Bonjour Alain Duhaut.
Bonjour Franck.
Non seulement vous connaissez tout ça, évidemment, absolument par cœur, mais en plus vous avez bien connu Yehudi Menuhin, vous avez voyagé avec lui, vous l'avez interviewé souvent. On va raconter tout ça à nos auditeurs dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Concerto pour violon et orchestre numéro 2 de Paganini, interprété en 1961 par Yehudi Menuhin, le grand violoniste, et cet après-midi au cœur de l'histoire. Et vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain, poète, musicologue, animateur de télévision et de radio, Alain Duhaut.
Alors, on a entendu et reconnu cette grâce souveraine, hein, ce rubato, en même temps cette touche très nerveuse, assez étonnante, et puis le caractère un peu râpeux de la touche de Menuhin, Alain Duhaut.
Oui, d'autant que là, on est en 1961, c'est-à-dire dans la deuxième partie de sa vie. Parce que vous avez tout à fait justement rappelé l'énorme activité qu'il a eue durant la guerre, et parfois 3 concerts par jour. Et je dois dire que ça n'était pas un bon souvenir pour lui. Il m'en a parlé à plusieurs reprises. C'était pas un bon souvenir, et il pense qu'il s'est fatigué à ce moment-là. Parce que si on écoute les enregistrements, disons, des années 30, 40, et puis les enregistrements des années 60-70, on se rend compte que la virtuosité de la main gauche n'a pas changé, mais la touche,
oui, n'est plus
la touche
même.
De main droite n'est pas la même, les attaques sont pas les mêmes. On ne retrouve pas effectivement cette espèce de grâce absolument sublime qui était celle des enregistrements de 30, 35, 38, enfin, qui sont vraiment exceptionnels.
On reviendra
mais
tout à l'heure.
Il le disait lui-même.
Oui, on reviendra sur sa jeunesse, évidemment, et sur cet enfant prodige extraordinaire qui a bouleversé le monde, on peut le dire. Avant cela, quelques mots peut-être de cette relation avec Wilhelm Furtwängler. C'est quand même étonnant que ce musicien juif américain vienne au secours d'un grand chef qui a joué pendant toute la période nazie.
Alors vous avez dit une chose qui est très importante. Il se trouve que durant la semaine que j'ai pu passer avec lui, on a évidemment évoqué toute une série de choses. Et j'ai dit, mais alors cette rencontre, ce concerto de Beethoven, qui était effectivement mythique, mais pourquoi vous, juif, vous êtes allé ? Et il me dit, ce n'était pas un nazi, c'était quelqu'un qui était épris de la grandeur de l'Allemagne. Et sa seule foi, c'était le Saint Empire romain germanique, c'est-à-dire quelque chose qui était passé, mais qu'il retrouvait dans la musique. Il croyait à la grandeur de l'art allemand, et pour lui, pour Yehudi Menuhin, qui croyait à la grandeur de l'art universel,
en général, oui.
Vous savez qu'il voulait, par exemple, créer un Parlement européen de musique. Il était obsédé par l'idée que, pour reprendre la phrase de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Et il pensait donc que Furtwängler pouvait apporter cela et l'aider à apporter cela. Alors il y a eu cette volonté de le rencontrer, d'être à son service, parce qu'il m'a dit une fois une chose, on croit que je suis quelqu'un de très classique, mais je suis un agitateur, partout j'ai essayé d'agiter les choses. Et puis, il y a eu une révélation extraordinaire. Il avait entendu des disques, ces disques 78 tours, dans lesquels on prenait un peu de la sonorité de Furtwängler. Et il m'a dit, quand j'ai été en contact avec le son que déployait Furtwängler, ça m'a donné aussi cette volonté d'appuyer, toujours ce problème de main droite, d'appuyer pour accentuer l'expressivité de la musique. Donc ça l'a changé aussi, ça a été une double révélation. L'homme qui lui apparaissait lointain, mais qui était pétri par cet amour de ce grand art allemand, Bach, Beethoven, Brahms, évidemment, les trois B, et puis tout d'un coup, ce sentiment qu'il fallait exprimer non seulement quelque chose d'hédoniste, une beauté pure,
facile, oui.
Mais l'expression de l'âme humaine.
Eh bien sûr, une recherche très très élevée.
D'authenticité intérieure.
Élevée, bien sûr, et très profonde. Vous avez dit, la semaine que j'ai passée avec lui, racontez-nous, c'était à bord d'un bateau, c'est ça ?
C'était à bord d'un bateau qui a été célèbre à l'époque, qui s'appelait le Mermoz.
Oui, bien sûr, vous étiez une croisière culturelle.
Et où j'étais conférencier et j'ai donc pu partager cette semaine avec lui. Et quelques moments qui sont exceptionnels. D'abord, les soirées étaient tout à fait énormes parce qu'il n'allait jamais dormir. Je ne sais pas comment il se rechargeait ses batteries. Et donc, petit à petit, évidemment, on restait de moins en moins nombreux. Et le soir, très très tard, après minuit, on buvait un verre et il parlait. Alors c'était extraordinaire parce qu'il parlait d'une toute petite voix, il fallait vraiment tendre l'oreille. Il parlait d'une toute petite voix en chuchotant, mais il racontait des choses extraordinaires. Il me racontait sa rencontre avec le pandit Nehru, par exemple.
Eh oui.
Ça c'était étonnant, je me rappellerai toujours.
Il me dit, vous imaginez, premier ministre indien. Hein.
Voilà, j'étais dans l'antichambre, on m'avait dit d'attendre. J'attends un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Personne ne vient. Je pousse la porte et je vois le pandit Nehru, premier ministre, sur la tête, faisait du yoga. Première rencontre, je l'ai rencontré à l'envers. Mais il a raconté des tas de choses comme ça. Et puis, on a eu ce moment extraordinaire à Delphes. Vous voyez, le lieu où les dieux parlent.
Oh oui.
On était dans le stade de
Delphes. Le lieu
de
l'oracle.
Exactement, on était dans le stade de Delphes. Et là, il devait se préparer à jouer et à diriger, puisque c'était vraiment ce qu'il faisait de plus à l'époque. Et tout d'un coup, il a eu une espèce de contact métaphysique avec les lieux et il retrouvait quelque chose d'adolescent. Il y avait quelque chose d'adolescent dans ce regard qui était tout à fait extraordinaire. Vraiment un personnage fascinant.
Il avait ce visage un peu émacié en lame de couteau, comme ça.
Avec ce nez très aquilin.
Ouais,
mais quelqu'un de déterminé, parce qu'on a parlé, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais on a parlé aussi de ses relations avec les Palestiniens. Là,
bien
il était
sûr,
extrêmement déterminé. Il était passionné par la cause d'Esrelia, par Rostropovitch. Au fond, tout ce qui liait la musique à la vie humaine le passionnait. Et il pensait, mais quand je l'ai connu, c'était dans les années 80, il pensait qu'il avait dit ce qu'il avait à dire avec la musique, mais que ça lui avait donné suffisamment de poids pour dire ce que l'art a à dire dans la vie.
Et ça lui avait donné la célébrité aussi qui ouvre toutes les portes.
Sérieux.
Et toutes les portes, oui, bien
et
sûr.
Et des ennemis sérieux. Parce que vous avez rappelé que dans la communauté juive, et il le disait lui-même, et il en était attristé, il était aussi vilipendé. Parce qu'on lui reprochait justement Furtwängler, mais on lui reprochait aussi de soutenir la cause palestinienne. Et il faut bien voir que dans les années 80, c'était le moment le plus dur de la cause palestinienne. On était après les grands détournements d'avions des années 70, et soutenir pour un juif la cause palestinienne, c'était vraiment être un renégat. Et là, il avait du mal à le porter, mais néanmoins, il pensait que c'était son devoir parce qu'il était entendu de tous ceux qu'il pouvait approcher.
Il était par essence cosmopolite.
Ah hein, oui,
j'ai dit à quel point il était américain, mais il a été anobli par la reine Elisabeth d'Angleterre. C'est assez intéressant, ça, d'ailleurs. Il avait un rapport particulier à la Grande-Bretagne.
Mais vous savez, sur le cosmopolitisme, il m'a dit une chose. Un jour, on parlait, donc un de ces soirs, sur le bateau, et je lui dis, c'est quand même étonnant que tous les grands violonistes soient juifs. Et il me dit, mais c'est très simple, parce que comme on a toujours été chassés de partout, on partait avec notre instrument sur le dos, et on ne peut pas prendre un piano sur le dos, c'était donc un violon.
Et voilà, c'était plus simple.
Mais alors, quand il a été anobli, c'est pas quelque chose qui l'a marqué. Si vous voulez, comme il a eu absolument toutes les décorations possibles au monde, ce qui était pour lui important, c'est que ça lui donnait la possibilité, justement, de s'inscrire dans la société anglaise et de créer une école.
Il pouvait siéger à la Chambre des Lords.
Oui, il pouvait siéger, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup siégé. Mais il a créé une école extraordinaire où il m'a invité ensuite. C'était tout à fait amusant, où il distribuait la purée aux enfants. C'était très.
Il avait créé des festivals un peu partout. Le festival de Gstaad en Suisse, bien sûr, énorme.
Bah, c'est Gstaad, mais le festival de Gstaad lui a survécu et il est d'ailleurs maintenant dirigé par un violoniste que nous connaissons bien, qui est Renaud Capuçon.
Et oui, bien sûr. Beaucoup de nos jeunes et très talentueux violonistes lui doivent énormément. Hein.
Il y a d'abord ceux qui ont été des héritiers de sa fondation. Vous avez cité par exemple Laurent Corsia. Mais il y a aussi tous ceux qui ont été entraînés par cette image. Parce qu'il a donné une image de la musique classique. Vous savez, au fond, si on se plonge dans le grand public, si on fait un micro-trottoir, comme on dit, on demande quels sont les personnages qui évoquent la musique classique à un public qui n'y connaît rien. Il vous citera trois noms. Karajan, Callas et Menuhin.
Exactement. Ce sont les trois superstars de la musique classique.
Mais ce sont ceux qui ont été les passeurs.
Mais bien sûr.
Grâce à Menuhin, ou deux autres aussi, mais grâce à Menuhin, eh bien, il y a eu quelque chose de cette énergie, de cette force émotive qu'apporte la musique qui a pu se déployer dans un public vaste.
Nous avons consacré à Maria Callas et à Herbert von Karajan deux émissions assez récentes. Dieu sait si moi j'ai une passion pour Karajan, mais il faut reconnaître que Menuhin a quelque chose en plus par rapport à ces deux-là. C'est justement ce rapport aux êtres humains, aux autres. Il aide constamment.
Exactement, c'est-à-dire que Callas a été la plus grande chanteuse du siècle, mais elle ne s'est jamais occupée que du chant et d'elle-même. Elle avait déjà tellement de difficultés à s'occuper d'elle-même qu'elle n'avait pas la possibilité de s'occuper des autres. Puis elle est quand même morte à 53 ans. Mm-hmm. Et Karajan, c'était tout à fait autre chose. Karajan, justement, il a connu aussi ce problème de la dénazification, un peu plus difficile, puisque lui, il était véritablement membre du parti nazi. Il avait même eu deux fois la carte du parti nazi. Mais m'avait-il dit, quand j'avais fait sa dernière interview pour la télévision, je voulais avoir le poste d'Aix-la-Chapelle. C'est pourquoi j'ai adhéré deux fois au parti nazi. Et si j'avais dû adhérer en même temps au parti communiste, je l'aurais fait aussi.
Alors, c'est certain que... Oui, bien sûr. C'était la volonté absolue de faire carrière.
Voilà.
Mais c'est certain qu'Ariane a déniché un certain nombre de talents, et pas des moindres. Hein. Je pense à Anne-Sophie Mutter, entre autres. Mais il n'y a sûrement pas cette générosité. Voilà. Ce qui est fascinant chez Yehudi Menuhin, c'est l'incroyable générosité de
générosité, volonté d'aller vers les autres et volonté surtout d'inscrire la musique au cœur de la cité, d'en faire un élément de la vie et donc pas seulement quelque chose d'élitiste réservé à quelques-uns qui seraient ceux qui ont les moyens, la possibilité ou la connaissance.
Alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'il avait été particulièrement brillant dans sa jeunesse, ce Yehudi Menuhin. Il a été un incroyable enfant prodige. Nous y venons ensemble dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le grand violoniste Yehudi Menuhin est au cœur de l'histoire et vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain, poète, musicologue, animateur de télé et de radio, Alain Duhaut.
qui est arrivé avec une belle boutonnière, car la République vient d'honorer très justement Alain Duhaut il y a quelques jours. Vous êtes l'auteur aussi, Alain Duhaut, il faut le dire, d'un très beau recueil de poèmes qui s'appelle « Où vont nos nuits perdues ?» et autres poèmes, avec une préface de Xavier Darcos. C'est bien de pouvoir consacrer du temps et de l'énergie et de l'émotion à la poésie.
Je revendique d'avoir cette double vie, et cette double vie, le revers et l'avers de la main, c'est la poésie et la musique.
Exactement, bravo. Alors, justement, puisqu'on parle de poésie, est-ce qu'on pourrait définir un style Menuhin?
On pourrait définir deux styles Menuhin, je vous dis, c'est
le premier bien,
depuis sa jeunesse jusque, disons, au début des années 50, et c'est effectivement la grâce qui est le mot le plus approprié. Et il y a une sonorité liquide, c'est tout à fait extraordinaire. On a le sentiment qu'il pose son archet et que cet archet vient caresser les cordes, mais avec une fluidité étonnante. Mmh. Et puis la deuxième partie, donc fin des années 40, début des années 50 jusqu'à la fin, tant qu'il joue encore du violon, quelque chose de plus ardent, de plus accrocheur, de plus violent, de plus expressif, parce que probablement il y a ce problème physique de la main droite qui est fatigué.
Le
bras a été fatigué, surtout pendant les années de guerre, quand il a dû trop jouer, et puis peut-être il y a quelque chose d'organique. Mais
Violon est le même? Ah, c'est le Stradivarius.
Alors, il y a eu plusieurs violons. Il a eu des Stradivarius, le plus célèbre étant le Soil, qui est joué maintenant par Isaac Perlman. Mais il y a eu aussi beaucoup de Guarnerius. Il aimait d'ailleurs plus, disait-il, le son des Guarnerius que le son des Stradivarius. Mais il a eu de très nombreux violons tout au long de sa vie. Donc, c'est pas ça. C'est vraiment la manière d'entrer dans le son. Mais probablement que cette manière d'entrer dans le son était aussi une manière de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, non plus célébrer la beauté pour ce qu'elle est, mais la beauté pour ce qu'elle exprime.
Bravo. Alors on va entendre Yehudi Menuhin à la fin de sa vie, c'était en 1987 à Leningrad. Il est en train de jouer du Kreisler, en l'occurrence c'est le Liebeslied, la peine d'amour. Et puis nous reviendrons ensuite au jeune Yehudi Menuhin, à cet enfant prodige étonnant des années 1920. Pas si c'est de l'ossiètre ou du beluga, mais en tout cas c'est toujours du caviar. Néanmoins, on entend là donc en 1987, 5 ans avant sa mort, 5-6 ans avant sa mort.
Il est mort en 99.
Ah oui, non, c'est vrai, 12 ans avant sa mort. Yehudi Menuhin en train donc d'interpréter ce très très célèbre air de Kreisler, le Liebeslied, la peine, le chagrin d'amour. Avec sa sœur d'ailleurs au piano.
Hepzibah, avec laquelle il a beaucoup joué, il y a de très très nombreux enregistrements, et il y avait une complicité réelle entre le frère et la sœur, et une manière de respirer la musique ensemble tout à fait admirable.
Il y a chez lui une sorte de... Il y a quand même des accents qui peuvent faire penser un peu de temps en temps au violon de Zigane, comme ça. Hein.
Surtout dans cette période de sa vie, oui, parce que, encore une fois, on n'est pas dans l'hédonisme où on déploie l'archet lentement, là, On entre, quand vous êtes à Budapest, vous avez justement les musiciens qui sont là, qui s'approchent de vous et qui donnent des grands coups d'archer. Et il y a ce côté un peu tzigane.
Vous aviez d'ailleurs proposé à Yehudi Menuhin de jouer à la télévision avec Stefan Grappelli.
Ah oui, alors ça c'était une histoire extraordinaire parce que la maison EMI avait ce projet de réunir le plus grand violoniste classique et le plus grand violoniste de jazz. Et j'en avais parlé avec son directeur et moi j'ai dit très bien, ça me fait une bonne idée d'émission pour la télévision, donc j'en ai parlé. Il se trouve que je connaissais bien les deux, enfin je connaissais très bien Stefan Grappelli et je venais de faire ce voyage avec Yehudi Menuhin, et donc tous les deux étaient d'accord, aucun des deux ne se connaissait, ne s'était rencontré, et donc on a dit on va faire des séances de répétition l'émission devait être préparatoire pour l'enregistrement du disque qui finalement a eu lieu. Donc ils sont retrouvés tout, très déférents l'un vers l'autre et puis à un moment bon on a dit on va jouer, alors qu'est-ce qu'on va jouer, alors bon ils choisissent un thème et il y a cette phrase extraordinaire de Yehudi Menuhin qui se tourne vers Stefan Grappelli, alors vous le prenez en quelle tonalité, et Stefan Grappelli le regarde faisant il y avait des grands yeux comme ça, le regarde comme s'il lui avait dit un mot en zoulou, il dit je sais pas. Parce que Stefan Grappelli, ce qu'on découvrait là, ne savait pas lire la musique, connaissait pas. Comme il jouait à la feuille, à l'oreille. Et alors, Yehudi Menuhin était extrêmement perturbé parce que bon, c'était son langage, son code habituel n'était pas à sa disposition. Alors il dit, commencez. Et donc Grappelli commence avec une espèce de grâce étonnante, lui aussi. Et Menuhin se met dans sa roue, si vous voulez, commence à jouer, puis d'un coup, Grappelli, sans l'avoir pensé, change de tonalité, fait des modulations. Et il dit, mais il s'arrête. Il dit, mais vous pouvez pas passer je sais plus ce que c'était, de sol mineur à si bémol majeur. Et l'autre ne comprend, enfin, aucun des deux ne se comprenait.
Ça, c'est très intéressant.
Et c'était tout à fait extraordinaire parce qu'on voyait que ces deux génies, au fond, n'avaient pas la même base.
N'avaient pas les mêmes
codes.
L'un
avait quelque chose de parfaitement naturel. L'autre, c'était tellement, depuis l'âge de 4 ans, entré, donc c'était naturel. Mais il fallait quand même respecter des règles que l'autre ne respectait pas. Alors, finalement, ils s'y sont mis parce que, bon, c'était intelligent, puis ils avaient vraiment envie de le faire. Mais ces débuts étaient extrêmement difficiles. Et moi, j'étais un peu très très bête parce que je savais absolument pas quoi faire. On n'allait pas apprendre la musique à Stefan Grappelli. Et Yehudi Menuhin a vraiment ensuite compris la manière de moduler. Et il était toujours un petit temps en
retard.
En retard, oui. Mais il repartait aussitôt et c'était assez formidable.
C'est une magnifique.
Ça a donné une belle émission et un très beau disque est paru ensuite.
J'espère qu'on peut trouver cette séquence sur Internet, oui, probablement. Ça mérite
étonnant.
D'être cherché. Alors, on célèbre un centenaire, ça veut dire 2016-1916. Vous nous dites dès l'âge de 4 ans. Ça veut dire qu'il a commencé tout petit, ce Yehudi.
Ça veut dire qu'il était quand même dans une famille.
À New York.
À New York, qui respirait la musique. Oui, ses parents avaient immigré, mais il respirait la musique naturellement et d'emblée, il a été vraiment comme une sorte de joyau. Pour tous, pour son premier professeur, qui s'appelle Louis Persinger, et qui était absolument sidéré, parce que il apprenait à une vitesse très vite, très rapide, il comprenait parfaitement la structure de la musique, mais il poursuivait les choses, il improvisait. Vous savez que beaucoup de la musique est née de l'improvisation. Jean-Sébastien Bach a tout construit à partir de l'improvisation.
Pourquoi,
donc il improvisait des choses.
Pourquoi pas davantage de composition sous sa plume? Pourquoi seulement de l'interprétation? Ça, c'est une question siècle.
Je crois surtout, oui, peut-être une question de siècle, mais il avait surtout une grande révérence pour les grands compositeurs. Il était absolument fasciné par tous les compositeurs. Mais je me souviens pas de l'avoir jamais interrogé là-dessus, donc je peux pas répondre à sa place.
Parce qu'il aurait pu être un grand compositeur, probablement.
Mais vous savez, si on voit tous les interprètes qui ont tâté de la composition, on pense qu'ils étaient meilleurs comme interprètes. On parlait de Furtwängler tout à l'heure. Furtwängler a composé des symphonies dont on se passe bien.
sans peine. Alors, avec l'orchestre symphonique de San Francisco, le voilà qui se produit en public. Il a 7 ans et demi, 8 ans.
Oui. Surtout,
c'est un petit, une sorte de singe savant quand même.
Oui, il y a des photos d'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire. Il est tout petit, il a une culotte courte, c'est tout à fait étonnant. Mais il va y avoir cette rencontre aussi étonnante quand il a 10 ans, où il joue, je ne sais plus ce qu'il joue, mais il joue surtout quelque chose qui va valoir un mot extraordinaire à Albert Einstein. Albert Einstein, dont on sait.
Carnegie Hall ce soir-là. Hein.
Exactement. Et Albert Einstein sort et dit, maintenant que j'ai entendu ce gamin jouer comme cela, je peux croire en Dieu.
C'est extraordinaire. Je sais que Dieu existe, dit-il.
Oui, je sais que Dieu existe. Voilà.
C'est quand même extraordinaire.
C'est tout à fait étonnant.
Quand c'est Einstein qui le dit.
Bah oui, ça prend un poids.
Il arrive que de jeunes prodiges ne passent pas la barre de l'adolescence. Hein. Ça n'a pas été le cas d'Yehudi Menuhin. Au contraire.
Pas du tout, parce qu'au fond, dès l'âge de 16 ans, il est déjà entraîné dans des tournées internationales. C'est que ça a été très très vite. À 10 ans, il joue en Europe. Il vient en France, d'ailleurs. Vous savez qu'il va vivre, d'ailleurs, même à un moment à Ville-d'Avray, à côté de la famille de Boris Vian. Mais il vient en Europe et il éblouit partout. Donc, il est tout de suite entré dans une sorte de circuit qui fait qu'il ne s'arrête pas. Et puis, il a une gourmandise de jouer. Parce que toute cette première partie de sa vie où il ne s'occupe pas encore de ce qu'il va ensuite faire son obsession, c'est-à-dire servir le monde et servir l'humanité, il ne veut que servir la musique et il joue avec une gourmandise qu'on entend dans tous ses enregistrements. Les enregistrements des années 30 sont extraordinaires parce que une espèce de limpidité, de naturel et d'évidence à chaque fois qu'il pose l'archet sur les cornes.
Je crois, enfin j'imagine que dans les jours qui viennent, on va beaucoup entendre et voir Yehudi Menuhin pour ce centenaire, ne serait-ce que parce qu'il y a derrière aussi un certain nombre d'événements, bien sûr. D'ailleurs, il faut citer la soirée que Arte va consacrer à Yehudi Menuhin. C'est d'ailleurs pas une soirée, c'est une journée complète, une journée spéciale avec notamment le documentaire Le violon du siècle de Bruno Mont-Saint-Jean, hein, c'est ça. Et puis un concert d'hommage qui aura lieu au Concerthaus Orchester de Berlin avec le violoniste Daniel Hope. Donc ça va être dans la soirée, journée complète sur Arte, mais toutes les télés, tout le monde va s'y mettre, bien entendu. Et on va beaucoup parler du musicien, forcément, et de l'interprète, et du violoniste. On va le voir, on va l'entendre. Et on oubliera peut-être qu'il a aussi été un homme d'action, quasiment presque un homme politique.
Oui, c'est... tout à fait. Mais vous savez, c'est grâce à lui quand même que Rostropovitch a pu sortir du RSS. C'est grâce à lui que Miguel Angel Estrella a pu sortir des geôles d'Amérique du Sud.
Sûr.
Il faut voir tout ce qu'il a fait. Il s'est engagé en permanence. Vous savez, il y a quelqu'un aujourd'hui qui essaye et qui réussit assez souvent à avoir ce type d'action. Et curieusement, c'est aussi un musicien juif, c'est Daniel Barenboim. Daniel Barenboim, en créant son orchestre, Diwan Orchestra, fait moitié de musiciens israéliens et de musiciens palestiniens, a un peu pris le relais de ce que voulait faire Yehudi Menuhin.
Il y a quand même, dans ces grandes familles juives, une sorte de prédilection pour le violon. Alors, ce n'était pas le cas chez les Menuhin, hein. On ne jouait pas de violon. Ses parents, en tout cas, ne jouaient pas au violon.
Non, mais je te dis, son interprétation m'a beaucoup plu. Il m'a dit, mais nous, on a toujours été chassés, donc on partait avec notre violon sur le dos.
Ça vient peut-être de là. Hein,
mais en tout cas, c'est une explication. Mais il y a aussi, avec le violon, la possibilité d'exprimer quelque chose de l'intimité, du secret de son âme.
De l'âme.
Et il y a, oui, ce que les Polonais appellent le dzal, cette vibration de l'âme.
Alors, un coffret collector du centième anniversaire qui s'appelle The Menuhin Century vient d'être publié par Warner Classics. Il y a dans ce coffret 80 CD plus 11 DVD. Il y a tout un livre, un album, enfin, etc. Mais surtout 80 CD.
Ah oui, parce que c'est considérable. Il a enregistré et réenregistré beaucoup de choses.
Et pour cause, parce qu'il est né à l'époque de l'enregistrement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est assez étonnant même de voir que cette vie de 1916 à 1999 aura couvert exactement la grande époque, la grande période du disque.
Mais il a même suscité des œuvres. Vous savez que c'est lui qui avait commandé à Bartok sa sonate pour violon.
Alors voilà, quand même.
Donc il a aussi, non seulement déployé des enregistrements, mais il a suscité des œuvres qui ont perduré.
S'il fallait, dans ce coffret de 80 CD, là, s'il fallait en choisir quelques-uns, est-ce qu'il y aurait des compositeurs qu'il servait particulièrement bien ?
Oui, les compositeurs allemands, assurément. Beethoven.
Mendelssohn,
parce qu'il y a cet atavisme juif et les concerts de Furtwängler et Yehudi Menuhin avec le concerto de Mendelssohn, ça a été aussi un moment tout à fait extraordinaire. Et Brahms.
Brahms, bien sûr. Donc la grande musique allemande, tout simplement.
Et c'est en cela, pour revenir au début de notre conversation, qu'il a retrouvé Furtwängler, parce que lui aussi avait cette révérence devant le grand art allemand.
Merci beaucoup Alain Duhaut. Et merci. Je rappelle par ailleurs le titre de votre ouvrage de poèmes, « Où vont nos nuits perdues ?» et autres poèmes. C'est édité chez NRF Gallimard, c'était l'année dernière.
On vous retrouve dans un instant sur Europe 1, au cœur de l'histoire continue. Et Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Francis qui s'interroge sur les origines du journal officiel.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Francis qui vous pose une question cet après-midi, Franck Ferrand, par mail via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Pourriez-vous retracer l'histoire du journal officiel?
Alors, je ne vais pas revenir à l'époque où il y avait des tambours de ville pour annoncer les édits à la population. Les lois, vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Les lois sont depuis, on va dire depuis la fin du XVIIIe siècle et surtout depuis la Révolution française avec la Gazette nationale de France, les lois sont éditées et tout le monde est censé pouvoir y avoir accès. Néanmoins, c'est en 1869 qu'apparaît véritablement le journal officiel. 1869, donc on est encore sous le Second Empire, ça va bientôt devenir le journal officiel de la République française qui a le monopole de la publication des lois. Tout ça va durer pendant 147 ans et puis là, vous savez que le 1er janvier dernier, hop, terminé, plus de version papier du journal officiel. Il faut maintenant aller sur Internet pour le consulter. Je n'entrerai pas dans la polémique, mais c'est un peu étrange.